Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mag et bienvenue à notre nouvelle série sur les médias d'affaires de boissons. Comme vous savez, Baron Mag est un média d'affaires qui parle de ce qui se passe à travers, bien sûr, l'industrie de la boisson du Québec, de la bière, à travers le Canada, en français et en anglais. Puis, bien sûr, on suit beaucoup ce qui se passe à travers le monde. Nous autres, ça fait un bout de temps qu'on voulait faire cette série parce qu'on voulait vraiment comprendre ce qui se passe à travers l'écosystème que nous, on est. C'est un écosystème très niche, un écosystème de beaucoup d'analyses, beaucoup de monde qui travaille très fort pour comprendre un peu ce qui se passe en arrière de votre bière ou votre Coca-Cola ou votre boisson. J'ai eu la chance de parler avec beaucoup de monde que j'apprécie beaucoup, que je suis quotidiennement. Nous allons dans cette série parler avec du monde des compagnies comme Brewbound, un gros magazine américain, ou des journalistes indépendants qui font ce contenu-là. Puis bien sûr, parler avec des nouveaux magazines, que ce soit numériques, que ce soit en papier, des journaux, tout ça, puis des chroniqueurs, pour comprendre un peu ce qui se passe dans leur marché à eux autres, la tendance internationale, puis tout ça. Donc, merci beaucoup de suivre cette série. Si vous avez des questions, toujours leonardo@baronmag.com. Si vous voulez appuyer notre travail, s'il vous plaît, allez sur baronmag.com. Puis bien sûr, allez sur notre infolettre. C'est la meilleure façon de nous suivre. Puis bien sûr, tranquillement, on aimerait sortir des réseaux sociaux pour aller parler directement avec vous. Puis bien sûr, appuyez-nous en achetant notre magazine, le nouveau, de Les Affaires Brassicoles / Boisson Québec. Puis continuez à nous suivre comme toujours. Merci beaucoup et bonne écoute.
Bonjour.
Salut Elisabeth, ça va bien?
Ça va bien, Leonardo, merci.
Écoute, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, je suis content on s'est pas donné le temps de parler depuis le début de ton aventure avec Mordu, tout ça. J'ai eu des bons feedbacks de tout le monde, le monde aime ça. Comme toujours, tu es très occupé à faire plein de choses. La raison qu'on se parle aujourd'hui, comme tu sais, nous autres, on fait un spécial sur les médias de la boisson à travers le monde. Comment ça, puis comme je disais au début, on faisait des entrevues un peu partout. Puis Mordu, avec beaucoup moins que je parle, avec toute ta force que depuis des années, tu travailles là-dedans avec tes podcasts sur la bière, sur le vin, tu es vraiment très occupé. Je voulais savoir un petit peu comment ça va toi en premier lieu, comment ça va l'aventure de Mordu. Puis après ça, on pourra parler un petit peu le côté contenu, puis comment tu fais pour fonctionner les changements qui existent dans le média en France, peut-être à travers le monde.
Ben, il y a plusieurs questions dans ta question, finalement. Peut-être commencer par parler du contexte. En France, au-delà du contexte de la bière, qui est un contexte déjà très, très foisonnant, avec une croissance exponentielle ces dernières années, on assiste aujourd'hui, ces derniers mois, à une sorte de pause, on va dire, de diminution, par exemple, des créations de brasseries, d'une augmentation des fermetures de brasseries. Donc, on arrive dans une nouvelle étape, mais on reste quand même dans cette tendance de foisonnement et de curiosité de plus en plus de la part du public sur la bière, avec toutes ces brasseries, notamment locales en France. Donc, il y en a à peu près 2500, on ne sait pas trop, mais entre 2500 et 2600, ça c'est certain. Et le constat que j'avais fait avec la reprise du magazine Bières Aimées dans les années 2018, en fait, ouais, 2019, eh bien, j'avais fait le constat que au niveau du public, qui est mon cœur de cible, si je puis dire, mon engagement, il est vraiment de vulgariser la bière auprès du public et d'accompagner les professionnels, parce que les deux vont ensemble, et d'accompagner les professionnels dans leur capacité, dans l'amélioration de leurs compétences pour conseiller, pour parler des bières, pour les vendre. Donc, mes deux activités à la fois de formation et d'accompagnement des professionnels et mon activité de vulgarisation à travers des livres et du magazine, ce sont des activités qui sont pour moi totalement complémentaires et l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre finalement. Okay. Voilà, les restaurateurs par exemple pour choisir leur bière, ils ont besoin de formation et pour en parler, ils ont besoin à leurs clients. Je prends l'exemple des restaurateurs, ils ont besoin d'accompagnement, de connaissances qu'ils n'ont pas forcément. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui explique ma double casquette finalement, un peu sur le côté filière brassicole, filière restauration, tout ce qui concerne la boisson, mais aussi la restauration, parce que la boisson, c'est dans l'univers de la table. Mmh. Et puis vulgariser la bière, ça veut dire quoi? Ça veut dire éduquer le consommateur, en fait, l'éduquer. Voilà. Donc j'ai toujours sans forcément utiliser souvent d'ailleurs ce mot éducation qui correspond à mon activité, mais je ne l'utilise pas quasiment. C'est curieux que je l'utilise aujourd'hui d'ailleurs. C'est le sens de ce que je fais dans les outils que je propose, donc notamment le magazine. Voilà. Et parce qu'il y a cette curiosité, hein, il y a cette curiosité qui est animée par le marché finalement.
Puisque le marché est difficile en France maintenant, parce que je sais que, ben, moi, je suis un peu surpris que tu me dises que les Français, les brassiers se ferment en France, parce que je pensais que vous étiez comme dans un peu un retard des changements, mettre en place l'industrie française de la bière. Puis vous avez déjà des difficultés, des défis déjà d'expansion déjà?
Alors, ce n'est pas des difficultés d'expansion, c'est des difficultés plutôt de maintien des petites unités. Donc, ce sont généralement dans celles qui ferment, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est très récent, hein, c'est depuis l'augmentation des coûts des matières premières et des différents coûts liés à l'énergie. On est plutôt sur un constat de quelques fermetures de brasseries, de vraiment de petites unités. Voilà. Parallèlement, on a une expansion qui continue d'unités plus importantes, d'agrandissement d'unités. Voilà, c'est pour ça que je disais le foisonnement et le dynamisme, il est toujours là quand même. Hein. Et je ne veux pas être sur un plan trop morose, mais clairement, la tendance, elle est quand même toujours au dynamisme, hein, de ce marché.
Mais c'est sûr que c'est un marché qui est vraiment fort. Tu sais. Pourquoi vous changez de bière aimée à Mordu? C'était quoi le nom? Pourquoi le nom de changement? Parce que bière aimée à Mordu était vraiment très établi comme marque. Je me rappelle que même moi, au Québec, c'était une marque très connue quand même par les amateurs de bière puis de bouffe, tout ça. Puis ça faisait penser un peu à Billy Plaisir en même temps. Il y avait un beau mix entre les deux, ce qui se passait là-dedans. Puis, comme vous avez Mordu, c'était personnellement, je trouve que le nom est meilleur. Personnellement, ça fait quelque chose d'intéressant. Mais pourquoi avoir changé ce nom-là quand c'était un nom quand même bien établi, tout ça, avec quand même des podcasts qui allaient là-bas, des balados, plein d'affaires qu'il y avait déjà. Et changer de nom, c'est un gros choix quand même.
C'est compliqué. Là, ça fait 4 numéros. Je travaille sur le 5e numéro d'automne. Mmh. La raison d'être de ce numéro, de ce changement de nom, ça a été vraiment l'idée d'ouvrir les sujets, les thématiques, de ne pas me donner de frontières, en fait, de limites à des sujets. Et c'est pour ça que finalement, il y a, dans la ligne éditoriale, c'est vraiment toujours le fil rouge de la bière, c'est-à-dire la bière est devenue au centre et n'est pas juste un magazine de bière, comme c'était un petit peu le cas. Quand j'avais fait une étude de mon lectorat, puis de l'audience, en fait, d'une manière générale, et j'avais remarqué que les personnes qui ne lisaient pas Bière Aimée ne lisaient pas Bières Aimées parce qu'ils n'étaient pas soit amateur de bière, soit il n'avait pas envie d'acheter un magazine sur la bière. Et j'étais un petit peu frustrée parce que mon sujet, c'est la bière et la table.
Oh, c'est, hein? C'est le nom, voilà. Le nom bière qui fait toute la différence.
Voilà, et la bière reste le fil rouge, la bière reste le fil directeur du magazine, l'esprit du magazine, mais c'est au centre de tout finalement. Hein. Je ramène toujours tout à la bière, c'est un peu ça. Hein. Et puis alors, c'est aussi pas que la bière, c'est aussi des boissons. Donc ça, c'était important aussi parce que ma fascination, elle est sur la fermentation, les boissons fermentées. Donc, j'ai ouvert au cidre déjà, avec à chaque fois des experts, hein, dans le domaine. Également aux spiritueux, parce que ça reste la même famille de racines de produits. Et puis là, ça s'ouvre également sur le vin, sur des démarches et des initiatives dans le monde du vin. Donc toujours cette notion d'ouverture aussi dans les boissons. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est mordu forcément de tout plein de choses. Et même les personnes qui ne sont pas directement attirées par la bière le sont finalement, se retrouvent touchées par quelque chose qui concerne la bière en lisant Mordu. Voilà.
Et comment ça va? Le lectorat, est-ce que le lectorat a augmenté avec le changement de nom, tout ça? Ou le travail était plus difficile à aller chercher d'autres mondes qui étaient habitués à quelque chose? Ou l'ouverture était plus intéressante?
Alors, c'est comme je disais, c'est compliqué parce qu'il a fallu expliquer que c'était le même magazine à tous les abonnés. Donc, pas forcément quelque chose qui a été simple à faire. Et puis, dans la démarche de communication, enfin, sur le plan du positionnement, c'est vrai qu'il y a une ligne éditoriale qui s'est ouverte, donc avec des recettes notamment. Il y avait beaucoup de demandes sur des recettes, sur de l'histoire. Donc, il y a tous ces univers-là qui sont traités avec des ouvertures et également, bien évidemment, au-delà des frontières françaises, évidemment, hein, c'est universel le sujet. Et donc, ça a été compliqué, ça l'est toujours. C'est une aventure, comme je disais, c'est un défi parce que ça s'adresse donc aussi bien aux professionnels que donc à tout épicurien. C'est pour ça que la nouvelle façon de parler, enfin la nouvelle signature du magazine, c'est Mordu Magazine Épicurien. Ça s'adresse vraiment aux épicuriens d'une façon très large. Donc, ça fonctionne pour l'instant majoritairement par abonnement. Et ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des personnes qui sont abonnées se réabonnent. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose. Oui. Le magazine plaît. Après, il faut aller chercher les personnes qui disent qu'il est beau, qu'il est intéressant, mais qui ne s'abonnent pas pour autant. Voilà. Donc, c'est. Ah,
les gossins, eux autres, mettent tout le temps, eux autres. Je te comprends, moi aussi. On fait beaucoup d'efforts sur le design, tout ça. Puis, je sais que c'est un job difficile. Vous autres, c'est quoi votre lectorat professionnel? Puis, ils sont B2B, B2C. C'est quoi le pourcentage, à peu près?
C'est exactement moitié-moitié. Je fais oui, c'est à peu près moitié-moitié, quasiment. Et au niveau du professionnel, c'est essentiellement c'est réparti en à peu près le tiers des brasseries. Mm-hmm. Le tiers, c'est des restaurateurs, donc des chefs, et l'univers des CHR d'une manière générale. Et puis l'autre tiers, que j'espérais qu'il était le plus important, mais c'est comme ça, c'est les cavistes. Voilà. Okay, ouais. Les cavistes, c'est pour moi une évidence que c'est quelque chose qui s'adresse à eux, parce que il y a aussi les épiceries fines, pardon, mais il y en a très très peu des épiceries fines pour l'instant. Et voilà, c'est la répartition en moyenne qui ne bouge pas depuis le début. Et la différence avec le lectorat de Bière Aimée au début et la ligne éditoriale Bière Aimée au début, c'était vraiment 100% bière. C'était un magazine quasiment 100% bière au début. Voilà.
OK, OK. Vous avez le côté Mordu, tu sais, comme je disais au début de l'entrevue, tu sais que tu es très professionnel, tu t'en vas partout faire des conférences, tu devais comme ça. Je sais que tu t'en vas. J'ai été invité à une conférence en France, mais je ne peux pas aller où tu vas faire tu vas exposer là-bas en faisant des conférences dehors de ça. Il y avait le podcast Bierissima qui était vraiment bon, qui parlait avec des femmes, tout ça. Pourquoi tu n'as jamais voulu garder plus le côté B2B plutôt que le B2C quand on sait que dans les médias B2C, pour le moment que ça se passe, c'est business to consumer and business to business. Business to consumer, c'est vraiment difficile. B2B, c'est plus un investissement à long terme. Moi, je pensais au début, quand Mordu s'est lancé, c'est allé vraiment pousser vers ce volet-là, parce que, comme en France, il y a beaucoup de monde qui se lance en bière, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de questions, tout ça. On voit quelques magazines sortir, mais je ne vois pas de magazine B2B à part un magazine en ligne que je connais. Pourquoi tu n'es pas allé dans cette direction-là? Quand c'est une direction intéressante, c'est du monde qui investit à long terme, du monde qui cherche souvent à connecter directement avec les fournisseurs, le monde du service. Pourquoi ça a été comme ça?
Alors, d'abord, sur le plan de l'existant, du constat que j'ai fait, il y a toujours depuis 20 ans un magazine qui s'appelle Bière Magazine, dans lequel j'ai collaboré pendant à peu près 15 ans, on va dire, 10 ans en tout cas, certainement. Et ce magazine est donc étiqueté, enfin, sous l'appellation bière et 100% bière. C'est un magazine globalement que la profession connaît. Voilà. Mais c'est pour moi, voilà, il existait, donc je n'allais pas faire quelque chose qui allait être un concurrent de Bière Magazine. Ce n'était pas pour moi du tout quelque chose d'imaginable. Et puis, j'ai toujours travaillé beaucoup dans la gastronomie, avec la gastronomie et avec le CHR d'une manière générale, dans mon parcours. Et j'ai toujours été étonnée de l'intérêt pour la bière, mais du manque de connaissances. Voilà. Donc, pour moi, c'était plus aller vers, au-delà de la profession brassicole, vraiment la restauration. Et puis, les cavistes, voilà. Donc, les cavistes, c'est l'univers du vin aussi. Hein. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec le milieu du vin. Et puis, la deuxième raison, à part ce constat-là, c'était mon envie à moi. J'adore, comme tu dis, faire des conférences, j'adore J'adore être en contact avec le public. Et comme je, enfin, pour moi, les deux sont indissociables, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un modèle un petit peu...
Un côté hybride, ça existe.
Hybride, voilà, c'est ça, c'est hybride. Mais je pense qu'il il a sa place aussi. Alors, la difficulté, c'est qu'on parle très peu de bière dans l'ensemble des médias consumers en France. Donc, vraiment, les médias en kiosque sont quasiment... comment dirais-je, c'est extrêmement rare, même l'ensemble des médias, pas que presse, magazine, sont relativement pauvres en sujet bière, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, quand ils traitent les sujets bière, généralement, ils sont traités par des gens qui ne connaissent pas le sujet. Alors, je généralise pas, mais quand même, on peut souligner ce fait qu'il n'y a pas forcément la démarche d'aller faire... travailler ou faire appel à des personnes qui s'y connaissent en bière. Donc, au final, on retrouve des sujets qui sont souvent, quand même, avec des titres un petit peu basiques, avec des traitements un peu basiques, des jeux de mots un peu foireux, comme on a toujours l'habitude de lire. Donc, c'est quelque part une sorte de dévalorisation du produit, pour moi, quelquefois, ces articles. Pas toujours, en tout cas, la réalité, ce qu'on aimerait pouvoir dire sur la bière. Voilà. Donc, c'est parce que j'ai fait ce constat-là aussi, que dans le milieu du média destiné au public, aux consommateurs, il n'y avait globalement rien, en fait. Okay, voilà. Okay. Et la presse magazine, d'une manière générale, a tendance à aller plutôt sur des niches aujourd'hui.
Hein. Est-ce que tu penses que c'est à cause d'une pression du vin et du spiritueux français? Encore, c'est quand même un gros morceau commercial encore, le vin et le spiritueux en France, qui pousse un petit peu que la bière reste encore très c'est comme niche un peu à l'aide de ça. Parce que moi, je parle avec beaucoup de brasseries françaises, je fais des entrevues avec eux autres. Ils ont comme une volonté internationale. Nous autres, on connaît beaucoup de Québécois qui s'envoient en France. Puis, chaise d'information. Nous autres, on distribue en France, parce que c'est notre troisième marché pour nous autres après le canal anglais. Si on distribue chez la petite patrie, on distribue le journal, le magazine, on fait plein d'affaires là-bas. T'sais. Et nous autres, on voit qu'il y a un engouement par là, puis on voit que la microbrasserie française se développe bien et forte. Et, expérimente tout ça, puis on voit beaucoup de Français qui sont en Angleterre, tout ça. Ça, je voyais tout le temps, c'est comme la France, c'est un gros pays aussi, c'est plus petit que le Québec, mais il y a une population, c'est gros, puis chaque place est différente. Ça, je m'attendais qu'il y ait plus de magazines d'affaires pour pousser les gens à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est intéressant le côté hybride. La seule affaire, le côté hybride que j'aime de toi, comme je dis, c'est vraiment, tu peux aller chez tout le monde, tu fais des conférences, tu peux aller dans un restaurant, tu peux aller dans un trade show, tout ça. Mais le côté, je voyais tout le temps, c'est le côté de la publicitaire, côté marketing, c'est comment on fait pour parler à ces deux personnes, parce que souvent le côté B2B ne va pas vouloir parler avec le B2C, c'est très très rare, puis de plus en plus, ils commencent à voir un petit peu ça, puis chacun son territoire, c'est comment vous faites dans ce moment-là de bien parler à les deux consommateurs différents, est-ce que vous avez des infolettes qui vont ailleurs, parce qu'on m'a dit que la publicité numérique ne fonctionnait pas bien en France, c'est un autre monde. Donc, comment vous faites pour fonctionner avec les deux, tu sais, aller chercher la publicité marketing B2C, B2B, puis essayer de mettre ça en hybride, tu sais.
C'est un peu la difficulté, bien sûr, à laquelle je fais face. J'ai deux infolettres. J'ai une infolettre professionnelle et une infolettre qui est plus centrée sur le public, les abonnés consommateurs. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. Il y a l'infolette qui s'appelle Mordu, qui est vraiment qui s'adresse à tout le public. Et puis l'infolette Brassin, qui est plus spécifique à la filière brassicole, donc aux cavistes, aux brasseries, etc., avec des actualités bières, avec vraiment des points uniquement bières. Sur le plan du financement et de la publicité, je fonctionne difficilement. C'est compliqué parce que d'abord, c'est pas mon métier à la base. Donc, c'est mon cœur de métier, c'est la rédaction et c'est l'information. J'ai plutôt une démarche de distribution sélective, en fait, pour l'instant. Donc, mon but, c'est bien évidemment d'ouvrir à une distribution plus large, mais la distribution sélective, elle est, comme je disais, Mordu, je travaille sur le cinquième numéro de Mordu, hein, donc 16e, 17e numéro de Bières Aimées depuis le départ. 17 numéros, ça reste très jeune. Et là, je suis en plein dans la... dans la, je dirais, la deuxième étape, on va dire, de la distribution sélective pour le CHR, pour tout ce qui est hôtellerie, restauration. On va dire, mon magazine est un magazine qui se garde. Hein, c'est un magazine... voilà, c'est en fabrication, c'est un papier, c'est un bon papier. La pagination augmente aussi, hein, donc j'ai arrivé à 100 pages. Donc on est vraiment sur un magazine qui se garde avec une notion de collection et un beau magazine en fait, voilà. Donc c'est aussi une clientèle, je dirais, de distribution qui peut être pour moi intéressante. C'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, voilà.
Ok.
En plus des cavistes et des lieux dédiés à la bière. Mais pour l'instant, le but, ce n'est pas d'être en presse, en rayon presse systématiquement. Et puis, j'ai une distribution également en fonction des festivals, donc avec des tirages soit spécifiques, soit des tirages plus larges. Quand il y a des événements, par exemple, l'événement qui s'en vient là en début septembre, à Arras, on a un partenariat avec le Mondial de la bière. Donc, il y a le pavillon montréalais, je suis pas mal engagée sur la valorisation, on va dire, des brasseurs montréalais et des bouchers fabriqués pour aller avec ces bières. Et la même chose avec des brasseurs d'Artois. Il y a un autre salon qui est également très, très intéressant en France qui s'appelle le Salon du Brasseur. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais enfin, c'est les deux là qui me viennent tout de suite parce qu'il y en a un en septembre et un en octobre. Donc, Arras, le Beer Pod, c'est vraiment un festival grand public. Et à Nancy, il y a 2 jours de salon professionnel, donc où toute la profession brassicole se retrouve et suivi d'un festival. Voilà. Donc, il y aura bien les deux. On retrouve ces deux présences, ces deux facettes de public auxquelles je m'adresse. Voilà. Donc, la diffusion en festival est une démarche plus partenariale, là, pour le coup. Hein. Vraiment, c'est du partenariat que j'essaie de développer. Voilà.
Comment, est-ce que le brasseur qui tu parles des fois, ou la personne avec les cavistes, tout ça, est-ce qu'il recherche de plus en plus de médias, comme les médias numériques que tu fais maintenant, avec plus de B2B, plus de questions, plus d'éducation professionnelle, tout ça? Est-ce que tu vois qu'il y a une demande pour ça? Ou c'est pour l'instant, ils vont dans les magazines, comme tu disais, Beer Magazine, tout ça? Est-ce que tu vas créer quelque chose pour les autres? Parce que, comme tu sais, nous autres, Baron Mag, on est au quotidien, c'est notre quotidien, nous autres, donner de l'information, bien sûr, mais tout le temps faire de la stratégie pour les autres, travailler sur des différents modèles. S'il y a des tendances qui s'en viennent, on fait des conférences sur des tendances, des affaires comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que Mordu va pousser son volet de B2C pour aller chercher ça? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient? C'est quoi la grosseur de ton équipe, mais ouais, vous êtes combien?
Ben, en fait, je travaille avec des contributeurs journalistes, donc qui sont tous spécialisés dans leur domaine. Donc, pour l'instant, l'équipe, d'ailleurs, elle est beaucoup féminine, elle est à 80% féminine. Il y a pour l'instant que 3 contributeurs hommes et toutes les autres personnes sont des femmes. Donc, et dans les hommes, d'ailleurs, il y a Martin Thibault qui vraiment traite la partie brassage et voyage, voilà, ses voyages et ses expériences. Et puis, Dominique Hutin pour le cidre. Et puis Greg Giacolone, qui est en fait un professionnel de la bière et qui coécrit avec Élodie tout ce qui est sur l'archéologie bière. Voilà. Mm-hmm. Tous les autres, Sonia Esbouillon, Marie-Laure Fréchet, Ryoko Sekiguchi, Luana aussi sont des femmes expertes dans leur sujet. Voilà. Alors la question c'était.
On veut savoir, tu sais, comme l'idée, c'est comme il y a un côté professionnel qui a développé ce que c'est à développer de plus en plus, parce qu'il y a un côté, comme je dis nous autres, il y a le côté, le fait que le monde nous contacte souvent pour ça, des brasseries, des compagnies de boissons, toutes ces compagnies de cavistes, même tout ce monde-là, distributeurs, ils cherchent des informations-là, puis bien sûr des façons de leur aider quotidiennement dans leur business. Vous, vous êtes depuis longtemps avec ce que vous faites, est-ce que c'est une demande qui existe ou vous êtes dans un domaine qui n'existe pas là encore?
J'ai été surprise de constater jusqu'à maintenant qu'il n'y avait pas une demande vraiment significative on va dire qu'on peut faire avec laquelle on pourrait faire le parallèle avec ce que tu fais par exemple au Québec. Ça, c'est certain, c'est pas comparable. Aujourd'hui, le marché il est plus concurrentiel. Voilà. Donc, je pense que, je constate qu'aujourd'hui, on va avoir un peu plus de demandes de ce fait sur des questions notamment économiques. Même organisationnelle sur des filières, par exemple les filières orge, malt, houblon, bière locales qui sont en train de se développer. Je travaille beaucoup sur le bio, donc voilà, sur la question du bio, où je suis partenaire avec le premier salon mondial du vin bio pour tout ce qui concerne la bière. Donc c'est quelque chose qui va forcément se développer, qui va répondre plus à un besoin qui n'avait pas jusqu'à ici. Je constate qu'il n'y avait pas vraiment, à mon échelle en tout cas, il n'y avait pas de demande particulière. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a un. J'ai, dans le cadre de mes formations, j'ai beaucoup de professionnels. J'ai toujours constaté chacun pioche un peu l'info où il veut, où il peut, où il a le temps. Ben voilà. Mais je pense que ça est en train de s'organiser à ce niveau-là aussi. Et puis, il y a un vrai besoin à ce niveau-là de… Également, bien sûr, sur le plan technique. Donc, pour y répondre, j'ai prévu que Mordu, sur le site Internet, devienne en 2024 un site professionnel, c'est-à-dire avec accès à des dossiers sur abonnement, uniquement numérique. Voilà, donc vraiment une distinction avec la revue trimestrielle, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus technique, d'une part, répondre à des questions techniques, parce que sur le plan technique, évidemment, ce n'est pas moi qui vais écrire… Tous ces thématiques-là. Je travaille en direct avec notamment un maître malteur brasseur d'expérience, on va dire. Et sur chaque thématique, que ce soit les maltes, les orges, les houblons, les céréales, la fermentation, le barricage, il y aura des experts qui vont écrire. Donc, c'est cette démarche-là que je vais créer avec l'abonnement numérique.
Mais est-ce que vous avez aussi à parler avec les cavistes, tout ça? Parce que je sais que les cavistes ont beaucoup de questions. Moi, je n'ai pas avec des cavistes. J'ai eu la chance de parler avec des cavistes concernant, parce qu'avant, ils vendaient seulement du vin, tout à coup, il y a de la canne carrée, puis des affaires comme ça. La distribution en France, supposément, c'est inexistant quand on parle de bière, tout ça, ou de boisson. Puis je parle souvent avec des cavistes, puis je dis, il faut qu'on restructure tout ça. Moi, quand je parle avec eux d'architecture, de comment tu fais pour que le monde rentre, même mettre des chips, c'est quoi ça, des chips, tout ça. Puis je parle souvent avec beaucoup de monde en France pour qu'on ait un peu le marché. Puis tu sais, il y a tout un changement qui s'en vient. Est-ce que les cavistes aussi vont recevoir? C'est des cours ou des formations? Est-ce qu'il y a même les compagnies de vin? Je sais qu'en France, la canne commence tranquillement à aller, ça s'en vient. Le whisky est très fort en France. Est-ce que quand tu es un magasin épicurien, est-ce que tout ce monde-là va pouvoir se trouver dans ta section pro l'année prochaine tranquillement?
Bien, il y a forcément des choix en termes de public, mais c'est vrai que je parle beaucoup des restaurateurs parce qu'ils partent quasiment de zéro. Et une caviste à vin, c'est effectivement une demande. Alors, ce que je constate, c'est que dans les formations que je fais, ce sont quasiment aujourd'hui, maintenant, de plus en plus des cavistes vin, des enseignes de cave à vin ou des cavistes indépendants de vin qui se forment à la bière parce que c'est complémentaire, parce que c'est vraiment nécessaire maintenant de proposer un rayon bière qui tienne la route, que ce soit en local, en national ou en international. Donc, ils ont un besoin de formation et puis ils ont un besoin d'information aussi. Donc, bien sûr que ça va s'adresser aussi. Il y a la partie économique, il y a la partie comment on achète, comment on source, comment on va organiser un rayon, ne serait-ce que ça.
Mais l'emploi, c'est mal l'emploi aussi, vous avez le même problème que nous autres avec l'emploi, le monde qui manque, la technologie qui s'en vient, l'Internet, le fait de l'infolettre, je comprends qu'en France, l'infolettre n'est pas si poussée encore, il y a plein de choses qui se passent encore, ça.
Ouais. Donc, c'est clair qu'il y a tout à faire là-dessus. Leonardo, c'est vraiment un grand chantier. Je ne suis pas évidemment la seule actrice dans ce domaine, il y en a beaucoup d'autres, mais on a chacun nos médias, on va dire, nos contenus, nos visions aussi, nos visions, parce qu'en fait, comme je disais, tout à l'heure, la bière, c'est pas que la bière, c'est aussi tout ce qui va avec. Donc, un caviste à vin qui s'y connaît en vin et qui connaît pas du tout la bière, il va falloir qu'il fasse des choix. Il peut pas juste tourner avec des bières qui sont tendance. Il aura pas la clientèle pour ça, par exemple. Ou, enfin voilà, chaque cas est très très particulier. Donc, il y a énormément de questions. Donc, ça va répondre à un besoin, ça c'est certain. Et puis, il y aura jamais trop d'informations sur la bière. Voilà.
Bien sûr. Mais... moi, je veux savoir comment ça va la vente publicitaire en France pour des magazines comme vous autres. Tu sais. Parce que nous autres, au Québec, on a une force numérique qui existe depuis longtemps à cause qu'on est à côté des États-Unis puis il y a une force numérique. J'ai parlé avec des médias français puis j'étais vraiment surpris de savoir que ça n'existe pas, cette force de la vente numérique, la publicité numérique qui n'existe pas vraiment, à part pour les gros médias, mais... comment ça va la vente en papier? Est-ce que vous avez une différence? La deuxième question aussi, savoir est-ce qu'il y a une différence entre la publicité en papier, en numérique, puis dans votre PDF? Est-ce que c'est quoi la stratégie en arrière de ça?
C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée différence entre les gros médias et puis les médias indépendants et tout petit comme moi, en fait. Hein. Moi, je suis éditrice indépendante et à petit niveau, finalement, sur une niche, bien sûr. Donc, petit niveau quand même, pas si petit que ça, finalement. En moyenne, entre 5 000 et 8 000 exemplaires selon les numéros, donc c'est pas si petit que ça. La démarche publicitaire, pour moi, elle est de type global. Alors on peut choisir de la visibilité dans la revue, on peut choisir sur des thématiques aussi une présence revue et numérique, hein, et okay. Puis également revue numérique et podcast et infolettre. Donc c'est un peu une sorte de, comment dirais-je, de
package en soi.
De médias à tiroir. Pour l'instant, c'est très peu encore développé. Hein. C'est plutôt des marques et des structures et des organisations qui sont plutôt de type institutionnel ou des marques qui ont envie de s'adresser aussi bien aux professionnels qu'aux consommateurs. Voilà, c'est pour l'instant, c'est relativement peu développé. Donc, il y a beaucoup de développement à faire au niveau commercial en ce qui concerne ce média. Mais voilà, je fonctionne comme ça.
OK. Et puis, est-ce qu'il y a des agences spécialisées en alimentation qui sont intéressées à prendre le niveau des ventes, des choses comme ça? C'est quand même, on reçoit beaucoup de magazines français avec des... c'est quand même... vous avez Ricard, vous avez aussi des grosses compagnies françaises d'alcool là-bas. Est-ce que c'est difficile? Je sais que... je parlais avec un magazine français qui me dit que c'est difficile... pénétrer ce marché-là, mais quand même, il y a des agences qui s'occupent de ça, ce qui c'est un marché qui, tranquillement, vous avez développé, des affaires comme ça?
Oui, alors complètement, parce qu'en fait, ça dépend des boissons, bien sûr, hein, mais il y a des familles de produits qui ont besoin plus de communiquer que d'autres, hein, dépendamment de leur problématique ou de leur stratégie. Donc, moi, je sais qu'en priorité, j'ai plutôt, ciblée, je me suis déjà adressée plutôt à des collectifs de produits, à des organismes de tourisme, des personnes qui cherchent à valoriser leur savoir-faire au niveau régional, plutôt sur leur territoire. Voilà. Mais bien évidemment, il y a aussi les grandes marques et il y a aussi, selon les produits, en ce moment, par exemple, les cidres communiquent en ce moment où on parle, c'est vrai, ils communiquent de façon intense, certains vignobles également, plus que d'autres, donc c'est très, ça reste un terrain à défricher, mais via effectivement les interlocuteurs ressources médias concernées, quoi.
Okay. Est-ce que vous pensez de plus en plus qu'il existe un développement à long terme du balado en France? Est-ce que vous voyez ça venir? Nous autres, c'est en Amérique du Nord, on a le balado explose. En France, j'écoute uniquement des balados sur le vôtre, bien sûr. J'écoute bien sûr des balados de sport. Comme ça, en France, ça se développe beaucoup, très fort là-bas. Est-ce que le balado épicurien, c'est quelque chose qui se développe tranquillement en France? Puis est-ce qu'il y a des budgets en arrière de ça?
Alors, tranquillement, je pense que c'est le bon mot. C'est le bon mot. Parce qu'en fait, ce qui s'est développé, surtout ces dernières années, récemment en France, c'est plutôt les podcasts de radio. Donc, des émissions de radio. Donc, ça a été plutôt ça qui a été le fait marquant, en fait. Plus que de la production de podcasts. Alors, des podcasts épicuriens, oui, il y en a qui se sont installés et qui ont vraiment une belle visibilité et qui sont souvent. des démarches de, comment dirais-je, d'acteurs de l'alimentation, on va dire ça comme ça, hein, donc qui sont vraiment des productions financées par. Hein. La difficulté, après, c'est que moi, je reste dans un dans une démarche éditoriale, donc voilà. Donc c'est un petit peu différent. Voilà. Mais il y a énormément de développement à faire. C'est très tranquille quand même pour l'instant. Il y a beaucoup beaucoup de d'ouverture possible sur les podcasts en France. Hein, ça c'est sûr.
Parce que l'Afrique aussi, avec la France, moi, ce que j'ai découvert beaucoup, vous avez comme nous autres beaucoup de applications, des infolettes d'alimentation, c'est comme Bonbons ou des compagnies comme ça, qui eux autres sont très forts avec, je pense, parce qu'il y a un quart de million de lecteurs quand même dans les infolettes. C'est quelque chose que vous poussez aussi, est-ce que vous les poussez plus dans les infolettes aussi? Est-ce que c'est un avenir intéressant qui s'en vient avec vous autres de mettre en place des affaires comme ça, comme Monsieur Alfred ou des infolettes d'alimentation, des affaires comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de voyage, avec, pour un peu se promener, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec ça?
C'est dans ma vision, mais avec toujours une thématique et un public très, très ciblé, et puis des problématiques qui sont au cœur de ce que je fais.
Hein, donc, vous voulez garder le côté votre voix à l'aide de ça?
Voilà. Okay. Oui.
C'est quoi le développement? Le côté professionnel, c'est intéressant à développer ça, bien sûr, ce qui est intéressant, parce qu'il y a d'autres avenues avec Mordu que vous... Et vous voulez aller, je sais que le temps, c'est l'ennemi de tout le monde, tout le temps, puis on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Est-ce que Mordu pense à avoir un magazine de voyage en Palon, comme vous avez fait déjà, travailler sur des affaires? Est-ce qu'il y a des affaires intéressantes que vous aimeriez développer? Est-ce que le marché québécois, c'est intéressant pour vous autres, ou pas vraiment, c'est un petit marché quand même? Est-ce que c'est des affaires qui développent? Est-ce qu'il reste encore beaucoup développé en France encore?
Alors, déjà en France, c'est énorme ce qu'il y a à faire parce que pour la revue, hein, la financer de façon plus autonome, la développer en visibilité et en diffusion. Donc, il y a à la fois de la communication, mais il y a aussi de la diffusion, un travail de diffusion à développer. Ça, c'est la priorité. Et puis, le nom Mordu, moi, il m'a été quand même plutôt inspiré par plutôt le vocabulaire québécois, parce que je trouve qu'on utilise plus le mot mordu au Québec. Enfin, peut-être c'est une vision que j'ai, mais pas réelle, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle.
Moi, je suis surpris que c'est en français, parce que vous aimez le côté anglophone. Vous entendez, quand c'est écrit mordu, je pensais, oh, ça vient d'Allemagne ou quelque chose comme ça.
C'était non. Okay. Et donc, être mordu de tout plein de choses, quand on est mordu de quelque chose, ça veut dire qu'on ne résiste pas. Donc, pour moi, c'était un mot qui est développement, enfin, qui a un potentiel, évidemment, d'application énorme, déjà sur le plan de l'événement, bien sûr, et puis sur le plan des livres, parce que j'écris des livres, et donc clairement, il y a quelque chose qui profite à ce niveau-là. Voilà, donc oui, la réponse, elle est oui. Et puis surtout, alors, après le développement français dont je viens de parler, c'est au Québec. Moi, j'ai tout mon parcours est né au Québec, en fait. Hein. Donc, toute mon histoire, elle est née au Québec. Elle est née au Québec, vraiment. Donc, ma passion est née au Québec. Donc j'ai une sorte de retour au Québec dans l'espoir avec Mordu et clairement déjà avec le mondial de la bière en 2024 et puis au-delà du mondial, potentiellement tout ce qui est touristique, que ce soit à Montréal, gastronomique. Voilà, j'ai une telle attirance pour tout cet univers que forcément c'est pour moi la deuxième destination. De
la Belgique, puis plus que les développements qui est potentiel de. C'est comme quelque chose comme à côté de chez vous, il n'y a pas comme un marché intéressant avec ça?
Oui, alors en Belgique et en Suisse, j'ai pas mal de demandes, des médias belges notamment, plutôt la Belgique que la Suisse d'ailleurs, les abonnés en Suisse aussi, mais c'est vrai que finalement, une part quand même peu importante du développement pour l'instant. Ouais. Donc, bien sûr que ça serait logique aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas incompatible.
Mais nous autres, on cherche beaucoup le marché franco-canadien avant d'aller chercher le marché américain. Nous autres, on est au Québec très fort, mais le marché franco-canadien, c'est un marché de millions de personnes qui n'aime pas beaucoup de monde utilise. La France, pour nous, c'est un marché vraiment, c'est ce qu'on appelle un wet dream, nous autres, aller en France. Nous autres, on fait l'effort d'aller en France avec notre journal. On vient de lancer un magazine qui s'appelle Terroir, puis on a un B2C, puis on a envoyé des copies en France avec un distributeur. Mais pour nous, on sait qu'être en France, il faut que, si tu veux lancer quelque chose en France, il faut que tu sois en France. Puis souvent, le monde me dit, il faut que tu dépasses Paris. Paris, il faut que tu sois à Paris, ou sinon ça ne marche pas ailleurs. C'est très difficile. Ça. Est-ce que vous autres, vous êtes, votre clientèle est très parisienne encore, ou c'est une clientèle?
Non, ma clientèle est plutôt, plutôt régionale.
OK, oui.
Ouais, plutôt régionale que Paris, que francilienne, oui.
Et pourquoi les restaurateurs ne sont pas plus au rendez-vous avec la publicité? Ça, là, fait qu'ils ne se comprennent pas. Tu sais, les autres sont, je sais qu'ils sont très web, eux autres, de plus en plus, avec des achats en ligne, tout ça. Les, tu peux comme, tu sais, avec la pandémie, en plus, le, c'est là-dessus. Mais je m'attendais plus avec Mordor, ouais, plus de monde qui de la gastronomie, tu sais, comme les couteaux, les cours, des comme ça. Je voyais plus de monde là-dedans, tu sais.
Oui, mais c'est long, c'est très long. Et c'est vers ça que je vais, bien sûr. Hein. Je parle tout le temps de la gastronomie, de la restauration, c'est pas un hasard. C'est mon ADN, en fait, hein, la bière et la gastronomie. Donc, forcément, je vais rester dans cet univers-là, que ça soit la bière et la gastronomie en Belgique, au Québec, etc. Et la profession même des restaurateurs, je l'ai travaillé depuis tellement d'années que j'ai compris que c'est lent. Et là, ça y est, il se passe enfin quelque chose. Donc, c'est très, très long. La nouvelle génération quand même de chefs est beaucoup plus immédiatement ouverte à la bière que les précédents, que la précédente génération. Donc, clairement, il va y avoir du développement au niveau de la restauration. Ouais. Dans toutes les régions aujourd'hui, il y a des restaurateurs, que ce soit gastronomique, semi-gastronomique, bistronomique ou CHR classique, on va dire, hein, traditionnel, ou nouveau CHR. Quand je dis CHR, c'est plutôt le café, le bistrot. Mm-hmm. Moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est... nouvelle forme de consommation de type café qu'on voit se développer en France, que ce soit des thématiques de cuisine ou des thématiques de boissons. Là, il y a un gros changement qui s'opère et un vrai besoin d'avoir la bière dans ces univers-là. Quoi. Voilà. Donc, c'est plus un besoin maintenant que ça ne l'était avant. Voilà.
Ok, ça vous a vraiment dans un côté intéressant. Ça. Est-ce que vous allez vous lancer un TikTok, des affaires comme ça ou non?
J'aimerais tellement faire plus de vidéos et tellement plein de choses, mais le temps, comme tu disais là, le temps c'est la question clé finalement. Mais je suis plus attirée naturellement vers la voix que l'image, voilà. Donc clairement, je vais privilégier plutôt la voix.
C'est quoi le nouveau? Ça, tu me disais que les marchés, les petits cafés et les restaurants commencent à développer beaucoup. C'est quoi la plus grosse tendance qui s'en vient dans les médias français, puis dans la restauration française, puis disons la consommation en soi? C'est quoi la plus grosse tendance qui s'en vient pour l'instant?
C'est cultiver sur le plan de la restauration d'une manière générale, ça va être plutôt un recentrage sur les produits locaux, quand même. Voilà, un recentrage sur les produits locaux. Il y a beaucoup d'influence et beaucoup d'évolution dans cette profession-là, mais je pense que je mettrai en premier ce réintérêt, on va dire, pour les produits de proximité, locaux, de terroir. Voilà, des chefs comme Florent Laden ont ouvert la voie il y a déjà plusieurs années dans le Nord, où lui, il a toujours été le porte-drapeau des produits du Nord. Ça commence à se développer dans d'autres régions, cette démarche, et elle est beaucoup moins, entre guillemets, spéciale ou curieuse. Voilà, c'est beaucoup plus partagé maintenant. Donc, il y a ce retour à des besoins de travailler plutôt avec des producteurs locaux autour de chez soi. Voilà. Donc, c'est un peu cette forme de restauration-là. Enfin, cette tendance-là en restauration, dans tous les circuits de distribution de restauration. Et puis bien sûr, sur les nouvelles boissons, il y a des lieux spécifiques qui n'existaient pas avant, bien sûr. Hein, tout ce qui est coffee shop, ça se développe beaucoup avec la bière aussi. Voilà. Il y a des nouvelles formes de CHR qui apparaissent et qui sont des CHR, la plupart du temps, indépendants. Donc, on a finalement deux circuits de CHR en France, avec un CHR traditionnel historique avec un nombre de CHR évidemment toujours important, bien sûr, hein, et puis une émergence de nouvelles formes de CHR avec des nouvelles générations qui sont clairement dans l'indépendance et dans l'engagement sur le bio, sur le sans-alcool, sur on voit même des bars et des caves sans-alcool.
Ok, il y a beaucoup de choses à faire. Elisabeth, on se voit l'année prochaine. Tu viens à Montréal pour le 30e anniversaire de festival. Ok.
Complètement. Pour le 30e anniversaire, je ne vais pas rater ça.
Il y avait une conférence. Tu viens pour une conférence uniquement pour visiter.
Non, je pense qu'on a prévu quelques petites surprises au niveau animation.
Nice, voilà. C'est bon.
Mordu, bien sûr, oui.
Ouais. Ça va être. J'ai déjà parlé un petit peu avec la gang, puis je sais qu'il. Il prépare sur de l'euro tranquillement. J'ai hâte de voir ce qui se passe avec ça. Puis, ouais, puis on a le temps de boire de la bière puis parler de tout ce qui se passe.
C'est ça.
Bien sûr, ce que j'aimerais beaucoup, c'est quand vous lancez la section Pro, vous contactez nous pour voir comment ça développe là-bas. Parce que, comme je dis, nous autres, quand j'ai le temps, je parle un peu avec les Français, je développe un petit peu ce qui se passe là-bas. Puis on veut comprendre le marché en France parce que pour nous autres, c'est un marché qui est en retard, mais c'est un marché qui se développe très, très vite en France. On a eu la chance de parler avec beaucoup de journalistes français ou des auteurs, des autrices françaises, puis ils nous parlent beaucoup de ce qui se passe là-bas. Puis c'est des questionnements que je me posais tout le temps de savoir pourquoi il y a tellement de retard dans le média numérique en France. Et puis je ne comprends pas parce que la France, c'est comme il y a des grosses agences publicitaires là-bas, il y a beaucoup de technologies françaises sur la publicité. Puis nous, on utilise au Québec, puis au Canada, dans la vidéo, tout ça, puis je m'attendais qu'il y ait plus d'explosions numériques en France à l'aide de ça.
Ouais. C'est, je ne sais pas.
C'est
une réponse à ce retard qui est vrai, hein, c'est clair.
Bien, excellent. Mais écoute, Lisette, merci beaucoup. Si quelqu'un veut vous contacter, puis où est-ce qu'on va, comment on fait pour avoir le magazine, tout ça, comment ça fonctionne?
C'est extrêmement simple, ça s'appelle mordumagazine.com, voilà. Mordumagazine.com, donc en principe, on a après accès à tout ce vers quoi on veut aller, que ce soit pro ou... bientôt et tous les autres sujets.
Et vous avez en plus le côté PDF, le côté numérique aussi, quand vous le montez acheter.
Ouais. Oui, la version numérique est maintenant possible. Donc, l'abonnement numérique ou l'achat du magazine en numérique. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Il y a les deux aussi, voilà, la formule avec les deux. Et puis, je vais peut-être aussi aller sur les... Enfin, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs, je vais proposer aussi des articles numériques.
Ok. Okay, la vente comme ça, ok.
Voilà.
Parle, ok, ça existe. Parce que c'est ce que le monde achète des articles en moi, en soi. Une question avant de partir. Est-ce qu'en France, vous avez développé beaucoup le contenu payant avec les clients? Ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Travailler des clients sur des dossiers, mettre en place d'affaires payantes, ça se développe beaucoup en Amérique du Nord. Est-ce que vous avez commencé à développer ce marché-là?
Ben, c'est prévu, mais c'est très, c'est commencé, mais il n'y en a pas énormément, en fait. Dans le milieu, en tout cas, de la boisson et de la bière, j'en vois pas énormément. Il y en a, bien sûr, hein, clairement, mais pas tant que ça, finalement. Hein. Ce qui s'est développé vraiment, c'est l'accès à la presse numérique, grand public.
Okay.
Ça, c'est sûr. C'est ancré dans le... Mais au niveau professionnel, en tout cas, sur l'univers de la restauration et de la boisson, il n'y en a pas tant que ça.
Okay, voilà. Ça a développé ça. Est-ce que c'est à cause d'un côté comme que le monde s'est touché un peu comme histoire et le monde est comme ils ne veulent pas embarquer là-dedans ou c'est quelque chose qui n'a pas été encore proposé aux gens encore?
C'est juste que je pense que ça n'a pas été développé. Ça n'a pas été proposé. Je pense que c'est ça, plutôt. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de frein à développer ça. Je pense
non,
pas.
C'est des gros dossiers, un gros dossier numérique payé par un festival ou des agences de voyage ou des compagnies, c'est des monde comme des villes qui aimeraient avoir ça, tu sais, pour faire la France ou à travers ailleurs, ça peut être intéressant.
Bien sûr, des thématiques spécifiques, bien sûr, ouais. C'est tout à fait développable et c'est tout ce qui a trait aussi à du contenu spécifique qui m'intéresse. Oui. Forcément, ça va aller faire avec ça.
Ben, excellent. Écoute, merci beaucoup, Elisabeth, pour ton temps.
Merci, Leonardo.
On se voit l'année prochaine. Tu m'amènes des copies de magazines, tu m'as hâte. Puis, si tu je sais pas, tu n'es pas à Paris, toi.
C'est juste à côté, c'est Paris, le Grand Paris.
Excellent. En septembre, le magazine, le journal arrive à la petite patrie. On a tout envoyé là-bas. Ça prend un mois pour arriver en bateau là-bas. Oui. On a envoyé des copies. On a envoyé comme, je pense, presque 1000 copies de journal là-bas. Puis 4 boîtes de magazines. Il y a de grosses arrive, puis en décembre, on envoie une autre batch de journaux, tout ça là-bas. Ça. Je sais que lui, il me dit que ça part vite tout le temps. Ça. Appelle-le, dis également-en deux copies pour être sûr que c'est correct.
Bien sûr. OK, tu ne me prêtes pas. Merci en tout cas de l'info, hein, vraiment.
Merci beaucoup.
À bientôt, Léonard.
À bientôt.